pas le procès du PS.
J'ai l'impression quand même que c'est le PS qui est toujours accusé d'être briseur d'union.
Non, c'est pas vrai.
Mais quand la France insoumise écrit dans la perspective du municipal, on partira contre les socialistes.
Non, ça c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est trop facile de se victimiser comme ça en disant oh mais c'est toujours on nous dit le PS machin. Non, on dit la même chose à la France insoumise. C'est moi je n'ai aucun problème à dire exactement la même chose à la France insoumise et je dis à n'importe quel parti de gauche qui refuse de faire l'union et ça vaut pour les législatives mais ça vaut municipales aussi hein, parce qu'on peut parler des municipales voilà. Juste après hein, parce que ça
on
ça y a aussi des trucs
parler,
à dire. Et en fait il y a un moment la trahison, elle vient de on vous donne un mandat pour nous représenter. Nous, le peuple de gauche, dont 84% veulent l'union. Quand je pose la question de vous faites quoi depuis juillet 2024 pour que ça se passe mieux entre vous ? Je n'ai pas de réponse.
Je vais te répondre si tu veux.
Bah, je veux bien parce que en fait, il faut aussi comprendre que nous, on a bossé, nous aussi, hein, pour rien. Parce que vous êtes député.
C'est pas pour rien.
Ah, non, pas pour rien. Pour rien, pour pas de bénéfices perso, quand même. Donc, on a tracté, on s'est levé à 6h du mat, on a fait tous les machins pour... moi, je continue à gagner à peine au-dessus du SMIC hein, dans ma vie. Donc, je veux dire, moi, je ne suis pas élue députée, j'avais pas d'intérêt perso à faire en sorte que la gauche gagne. Mais, et je suis moi, mais on était des millions à vouloir faire triompher le NFP, qui a d'ailleurs été largement débordé de juste les partis politiques. Et c'est ça qui était très beau. Maintenant... On vous a dit ça, on vous a fait confiance, on vous a forcé à faire l'union quand même. On se rappelle, hein, vous étiez quand même pas parti très très chaud. On peut se refaire la campagne des européennes, mais voilà. Ma question, c'est
pas ta question, ouais.
Qu'est-ce que vous faites ? Moi, j'aimerais concrètement pour faire en sorte qu'on ne se refasse pas le congrès de Tours et qu'on ne se refasse pas les deux gauches irréconciliables avec tous les défauts de l'AFI. On peut en parler si ça apaise le débat. Il y a pas de problème. J'ai besoin de savoir que vous vous foutez pas de notre gueule, en fait. Et je crois que je suis pas la seule, franchement.
Bon, alors moi, je vais te dire, en fait, je sais pourquoi j'ai été élu et par qui. J'ai été élu parce que j'étais porté par un formidable mouvement au premier tour, des gens qui se sont engagés, notamment parce qu'ils avaient pas envie d'avoir le Rassemblement national au pouvoir. Et parce qu'ils étaient de gauche. Et qu'ils voulaient porter la gauche comme une alternative à tout ça et qu'ils en avaient marre du macronisme. Je sais aussi que si j'étais élu au deuxième tour, c'est parce qu'il y a des électeurs de droite qui ont voté pour moi, plutôt que contre le Rassemblement national. Donc j'ai été élu par tous ces gens-là, et par un espoir populaire, et par des gens qui ont voulu faire barrage au Rassemblement national. Et donc en fait, moi je me retrouve, mais comme la plupart de mes collègues, avec cette double injonction. Dès que je censure un gouvernement, je reçois des centaines de mails qui me disent « moi j'ai pas voté pour vous, pour que vous créiez de l'instabilité dans le pays, parce que demain c'est le Rassemblement national ». Et dès que je fais potentiellement l'inverse, je me reçois des centaines de mails en me disant « vous me trahissez ». Donc en fait, quoi que je fasse, je trahis tout le monde. Voilà. Non mais c'est
oui, mais
c'est clair.
Ça doit pas être...
Et donc en fait, les électeurs, ils ont voté aussi en disant « je veux que vous m'évitiez Marine Le Pen au pouvoir ». Et donc tous les jours, en fait, moi c'est le combat de ma vie, c'est d'éviter Marine Le Pen au pouvoir. Donc comment est-ce que j'évite Marine Le Pen au pouvoir demain ? Voilà, ça c'est ma question.
Mais
et
la
donc,
réponse c'est l'union
pour rien,
de la gauche. Hein.
C'est pas vrai. La mobilisation du Nouveau Front Populaire, elle a permis d'augmenter de 50 le nombre de députés qui viennent de la gauche, d'éviter justement qu'ils aient même une majorité relative trop importante pour nous faire passer des choses comme la réforme des retraites, qui serait impossible aujourd'hui. Hein, je rappelle que la réforme des retraites, elle est passée parce qu'à 9 voix près, elle n'a pas été censurée. Hein. Donc du coup, aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. L'Assemblée nationale, elle est différente. Et objectivement, on est plus nombreux à gauche. Alors oui, on aurait aimé que tout ce combat-là nous mène à être majoritaire, à pouvoir appliquer le programme pour lequel on avait été élu. Le problème ? Bah, c'est qu'on n'est pas majoritaire.
Non, mais et donc, on l'aurait en fait, pu l'être moi, si vous aviez bossé ensemble depuis
comment
un
ça
an.
On aurait pu être majoritaire en 2020.
Aux prochaines, s'il y avait une dissolution demain.
Aux prochaines élections.
Et aux prochaines
demain.
Élections, moi, je suis désolée, mais on n'y comprend plus rien.
Et ben, moi, quand je regarde des enquêtes d'opinion, je n'ai pas l'impression que la France, elle soit majoritairement, à l'heure où je parle, de gauche.
C'est une bonne question.
Bataille politique.
À 33%.
Le risque, vous parliez tout à l'heure du combat de.
On ne peut pas accepter ça.
Mais on mène la
bataille
politique. Et on mène
en passer une. Tu parlais tout à l'heure, Arthur, du combat de ta vie qui est celui d'empêcher Marine Le Pen d'arriver au pouvoir. Si demain il y a une dissolution, le risque de l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir est tout aussi réel qu'il l'était l'année dernière. Est-ce que vous y retournez avec les Insoumis ?
Moi, je pense qu'il faut, de manière générale, tout faire pour éviter, je vais le redire. Et donc, du coup, si on identifie un risque réel, et il y en aura forcément un, c'est la détestation de Jean-Luc Mélenchon. Et cette détestation de Jean-Luc Mélenchon, elle est alimentée par deux choses.
Mais ça, c'est un problème pour la présidentielle.
Et Jean-Luc Mélenchon lui-même.
Oui, c'est ça. Là, on parle des législatives, oui, mais en fait, les législatives ou des municipales. Et du coup, Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'il n'a pas envie d'être maire, là, maintenant.
Et ben non. Et par contre, quand il y a des législatives, moi, j'ai fait une campagne il y a un an. J'ai comparé avec la campagne de 2022, où on me parlait un peu de Jean-Luc Mélenchon à partir du moment où il a sorti la police tue. Enfin, voilà, je faisais du porte-à-porte et on me parlait de... C'est en a fait en milieu rural, je suis sûr qu'on l'a sorti. Voilà. Et derrière, bah, il y a un an, on détestait encore plus Mélenchon que pendant ma première campagne. Et aujourd'hui, on déteste encore plus Mélenchon que pendant les deux campagnes précédentes. Donc s'il y a une dissolution, c'est quand même un fardeau. Voilà. Et à l'échelle municipale, c'est pareil. Si tu mets l'étiquette LFI, les gens, ils voient Jean-Luc Mélenchon. Alors que, franchement, moi, je le dis, hein, j'ai pas de problème personnel avec mes camarades d'LFI. Hein. Ce midi, j'ai encore pris un café avec des LFI à la buvette parlementaire. Enfin, je veux dire,
oui, voilà. Autant,
et on législative... travaille bien ensemble et on porte des choses ensemble et on s'est soutenus, je disais, la semaine dernière.
On a des petites coupures de stream, mais rassurez-vous, ça revient. Désolé, hein, ce soir, c'est un peu compliqué. La régie est un peu neuve après les travaux. Petite coupure de stream. Si vous avez raté, dites-vous, c'est pas, on a juste refait l'union de la gauche et on a composé un gouvernement. Vous regarderez le replay, vous verrez. C'est exactement ça.
Demandez à Sébastien Lecornu de sortir.
Demandez à Lecornu, qui sera notre invité la semaine prochaine, évidemment. Thibaut, tu voulais poser une question ?
Oui, enfin, peut-être deux, mais ça revient un peu en arrière et ça concerne l'hypothèse de la dissolution. Déjà, bonsoir. Mais tu as dit, Arthur, que l'idée, c'est de gouverner avec des ministres de gauche et que c'est la solution la plus viable. Et tu as parlé de texte par texte.
Oui.
Pour gouverner. C'est un discours qu'on a pu entendre dans la bouche du socle commun. Ma question, c'est comment gouverner, enfin concilier en fait deux difficultés. La première, c'est il faut forcément, sur les attendus, renoncer à un certain nombre d'éléments. Sinon, c'est le même travers que le socle commun, c'est-à-dire les lignes rouges. Mais dans le même temps, le fait de trop renoncer, en tout cas, je ne sais pas quel est le niveau de degré, peut conduire eh bien, à une rupture avec la LFI, qui est quand même un groupe qui n'est pas du tout négligeable dans cette alliance. Même dans l'hypothèse qui est la plus crédible, j'imagine, dans le discours qui est porté par le Parti Socialiste, d'un soutien sans participation. Comment on fait pour ne pas trahir trop mais quand même concilier et donc avoir le soutien d'une partie du socle commun, qui est un repoussoir aussi pour une partie de cet électorat.
Alors déjà, on considère que le socle commun sera dans l'opposition. On ne va pas faire une politique qui leur plaira, mais on va essayer d'obtenir d'eux le fait qu'ils ne nous censurent pas.
Et donc l'idée, c'est d'adopter des textes où il y a eu un taux d'abstention...
Il faut qu'on négocie des abstentions. Il faut qu'on arrive à voir aussi qu'est-ce qui peut être transpartisan. Bon, à titre personnel, moi, j'ai fait passer deux lois à l'unanimité sur les influenceurs, sur le report des élections de Nouvelle-Calédonie. C'est des trucs où on peut trouver aussi des consensus.
Sur le budget, par exemple.
On peut trouver des majorités sur les déserts médicaux, par exemple, sur la régulation de l'installation des médecins. Enfin, après, le plus dur, c'est le budget.
Voilà.
Et le budget, c'est la clé de tout. Et le budget, il dépend d'une chose, c'est de la trajectoire budgétaire qui est fixée par le gouvernement. C'est pour ça que ce n'est pas neutre de dire, quand on renonce au 49-3... que ce n'est pas tout, parce que la question, c'est qui a l'initiative ? Qui pose la première copie sur la table ? Qui fixe, en fait, le grand cadrage budgétaire ? Et, en fait, nous, dans notre projection budgétaire, on est plutôt à un déficit de l'ordre de 5%, alors que les autres étaient plutôt de l'ordre de 4%. Donc, un point de PIB de différence, c'est juste énorme. C'est 40 milliards de coupes, potentiellement, 30 milliards de coupes. Et donc, se dire qu'il y a un point de différence, ben, c'est le point qui fait respirer le pays. On ne dit pas que ça sera un grand budget, que ça sera un budget révolutionnaire, mais dans ce budget, on peut quand même rectifier des choses. On peut par exemple dire on fait le choix d'aller chercher un peu de fiscalité supplémentaire pour financer la suspension des retraites, pour financer un peu d'investissement vert. C'est sûr que ce ne sera pas le grand soir. Mais je crois aussi que les électeurs, les citoyens sont assez intelligents pour comprendre qu'on n'a pas la majorité absolue et que l'enjeu, c'est de se préparer pour 2027. Ce qui me permet de dire que nous, on travaille à ce cadre-là et que quand on dit « éviter Marine Le Pen », c'est comment on arrive à, pendant ce temps que nous permettrait un gouvernement de gauche de stabilité, construire les conditions d'une union de la gauche. Parce que si aujourd'hui, il y a ce que demandent les insoumis, une destitution ou une démission du président de la République, bon courage pour trouver la candidature commune à gauche.
Ouais.
Et objectivement...
Mais ce sera pareil en 2027.
Oui.
On n'est pas prêts. Nous, on y travaille. On a lancé un truc qui n'existait pas la dernière fois, qui s'appelle le processus de Bagneux.
De Bagneux, oui.
Dans lequel, je rappelle, les insoumis sont invités Et il y a même des socialistes, mais ils ne viennent pas autour de la table.
Tu peux pas leur reprocher, tu vois.
Ils refusent l'idée de la primaire. En fait, moi, j'aime bien, on nous reproche quand on vient pas à une truc qui parle c'est de la destitution du président de la République. Par contre, quand on parle de faire une candidature commune pour la présidentielle, il y a deux mois, bah là, en fait,
ils ont déjà un candidat commun, il s'appelle Jean-Luc Mélenchon.
Et ben voilà, en fait, moi, j'ai des candidats communs tout seuls. Mais moi, je considère que ça marche pas.
Moi, j'ai une question, parce que, mais par exemple, admettons, il y a une primaire. Là, on a vu qu'à la dernière présidentielle, Jean-Luc Mélenchon est arrivé largement en tête. Admettons, il y a une primaire, Jean-Luc Mélenchon arrive largement en tête. Est-ce que vous vous rangez derrière lui, oui ou non?
Oui.
Ok, voilà. Ça me va comme réponse.
Tout à l'heure, tu as commencé ton propos en disant ils ont peur, eux, de la dissolution. Je vais te poser la question déjà de manière très, très, très directe et je vais ensuite un peu développer. Est-ce que vous aussi, vous n'avez pas peur de cette dissolution-là? Je pense qu'au-delà de Jean-Luc Mélenchon, les gens dans ta circo, ils te parlent plus de mesures concrètes et notamment de ce qu'il y avait, de ce que tu défendais dans le contrat de gouvernement. On parle augmentation des salaires, blocage des prix de produits de première nécessité, blocage des prix du carburant, nos écoles, nos hôpitaux. Bref, la liste est longue. Je pense que les gens sont plus attardés à ça plutôt que de savoir est-ce qu'Arthur Delaporte, il porte Jean-Luc Mélenchon ou pas dans son cœur. Aujourd'hui...
Désolé, mais en fait, quand on vient me voir sur le marché, c'est plus pour m'engueuler là-dessus. Même si je sais, parce que
sur quoi
si on m'en parle pas, bah Jean-Luc Mélenchon, machin.
Ah ouais?
Ah ouais, moi on me prend pour un insoumis. Souvent, en plus, des gens ils disent, si vous tapez sur Google, vous tapez Arthur Delaporte et ça met LFI.
T'as tous les défauts du coup, voilà. Des insoumis, défauts des sociétés.
Globalement, mais ils me disent, ouais, Jean-Luc Mélenchon, il en a marre, votre alliance, votre machin, votre truc. Moi, je me fais beaucoup plus engueuler là-dessus. Par contre, ce que je sais, c'est que je me bats pour les écoles. Et objectivement, bah, dès qu'il y a une fermeture de classe, oui, j'y vais. Et je sais que mon sujet, c'est le pouvoir d'achat, c'est le logement. Et en fait, ça, c'est les gens qui viennent à ma permanence pour porter des problématiques concrètes. Mais en fait, c'est pas les mêmes qui m'engueulent sur le marché que ceux qui viennent à ma permanence parce qu'ils ont des problématiques du quotidien. Et en fait, moi, je me bats pour ça. Et je me bats pour l'hébergement d'urgence à Caen. Je me bats pour ce type de sujet-là. Et je sais qu'il faut une autre politique. Mais je ne suis pas sûr que c'est en disant dissolution, destitution que je répondrai à ces problématiques.
Je suis sûr, Arthur, que tu préférais te battre pour de grandes politiques pour nos écoles et pour nos hôpitaux plutôt que d'essayer d'empêcher au cas par cas les fermetures de lits et de places dans.
Et c'est pour ça que je veux gouverner.
Et c'est pour ça que tu veux gouverner. D'accord, soit. On parle donc d'un contrat de gouvernement, ce sur lequel tu as été élu. Maintenant, là,
même aujourd'hui, si je peux avoir le gouvernement, on peut empêcher des choses. Si on a le ministère de l'Intérieur, eh ben, on te fait une anti-circulaire Retailleau et ça changera vraiment les choses pour les personnes qui sont aujourd'hui privées de droits parce que les préfets...
Il n'y a pas besoin de passer par la loi pour faire des
réformes importantes. Non, mais justement, une petite circulaire et tu régularises des personnes qui aujourd'hui travaillent, qui se retrouvent à plus pouvoir travailler, qui se retrouvent expulsées de leur logement avec des gamins. Et donc, tu réponds aussi à la problématique de l'hébergement d'urgence parce qu'en fait, ils gagnent de l'argent.
On avait reçu, fin de saison dernière, François Ruffin sur ce plateau-là. Et on avait une discussion sur notamment des circonscriptions où toi, par exemple, tu as été confronté au Rassemblement national sur ta circonscription. Et tu l'as dit, c'est parce que des personnes ont voulu faire barrage à l'extrême droite néofasciste et raciste que tu as été élu. Et tu en es conscient et c'est trop bien d'ailleurs d'en être conscient. Par contre, là, on l'a vu, et tu l'as dit, les sondages, ça n'engage que ceux qui veulent y croire. Aujourd'hui, on a des premiers sondages sur des circos où on a des candidats socialistes et pas des petits candidats socialistes. Je pense que tu seras d'accord avec nous. Ou dans un cadre, ou dans le cadre d'un accord électoral qui exclurait LFI, puisqu'on avance vers ça, vu que apparemment vous n'êtes pas pointé au date. Aujourd'hui,
Il n'y a pas eu de discussion sur un accord électoral. Non, mais il faut arrêter. C'est pas en une heure.
On n'est pas encore à la discussion de l'accord électoral parce qu'il n'y a pas encore dit seul. Mais le but était au moins de discuter pour se parler. On parle là du sondage donc, qui est affiché par OpinionWay où on voit que des candidats et pas des petits candidats. On parle de Boris Vallaud, patron du groupe. On parle de. Dans un autre sondage, on parle de Philippe Brun qu'on a déjà accueilli sur ce plateau.
Boris Vallaud, il perd face au RN en cas d'absence de.
Il y a un an, on le donnait déjà perdant aussi dans un cadre. Et là, je parle du.
C'est vrai qu'il a été élu ricrac. Ouais.
Et c'est vrai que moi, quand je discute avec Boris, il me dit les gens ne veulent plus voter pour moi parce qu'ils me disent toi égale Mélenchon. Voilà. Les gens qui lui disent.
Mais ça, on peut grave. Mais moi, je l'ai vu. J'ai fait une campagne de 10 mois dans une circo rurale.
Belle circo d'ailleurs.
Oui, où Malek était venu d'ailleurs. mais en fait. Et on peut, encore une fois, on peut avoir ce débat sur LFI. Moi, j'ai pas de sujet. Il s'avère que là, toi, t'es là et t'es PS.
On parle beaucoup d'LFI. On me dit, vous trahissez, machin. Moi, j'ai pas l'impression de trahir ni les électeurs parce que je continue de porter les combats. Et surtout d'essayer de faire que ces combats ils se transforment en politique, en fait.
Non, mais ça,
je veux bien dire dans l'opposition augmenter les salaires, mais je préfère être au gouvernement pour essayer de les augmenter. Mais
alors, comme, excuse-moi Lumière, là, comment, c'est, on arrive pile au point où je voulais arriver depuis tout à l'heure. Comment tu me dis tout à l'heure que ton but c'est de gouverner et d'essayer de négocier des abstentions de la part du bloc macroniste. C'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est ce que tu as dit, oui, mot pour mot.
Qui ne nous censure pas.
D'accord, mais comment tu me dis, dis-moi qu'est-ce qu'on applique sur ce contrat de gouvernement que tu as défendu au scrutin, qu'est-ce que tu portes, où est-ce qu'on part aller chercher des victoires en allant négocier des abstentions?
Moi, je te l'ai dit, la suspension de la réforme des retraites.
Et tu sais très bien qu'ils vont...
Pas tous.
D'accord, pas tous, parce que c'est un peu en train de s'effriter.
Et je crois que le RN, ils ne peuvent pas voter contre la suspension de la réforme des retraites. C'est sûr.
Taxation des ultra-riches ?
Eh bien, la taxation des ultra-riches, chiche au RN d'aller expliquer aux gens que, en fait, on ne peut pas leur suspendre leur retraite parce qu'on n'a pas été récupérer les 3 milliards qu'il fallait. Enfin, je veux dire, à un moment, si tu fais un budget, bah, tu équilibres ton budget et tu vas chercher de l'argent là où il y en a. Et moi, je préfère faire...
Vous croyez vraiment que les macronistes ne vont pas vous censurer et vous laisser dilapider leur...
leur héritage.
Leur héritage.
Ouais. La seule réforme qu'ils ont faite, on se rappelle.
Moi, je dis chiche. Mmh. Non, mais après,
en fait, c'est de la même manière que...
Je mets un truc sur la table. Et c'est pas non plus un truc totalement déconnant, parce que sinon, eux-mêmes, les macronistes, n'y croiraient pas. Ils commencent à l'envisager. Enfin, moi, j'en ai croisé quand même quelques-uns à l'Assemblée ces derniers jours. Ils disent, en fait, moi, je suis pour un gouvernement de cohabitation. Ils le disent, et ils le font remonter. Après, le seul qui décide, il s'appelle Emmanuel Macron. Et en fait, c'est là où j'ai ma plus grosse inquiétude. C'est pas tant que c'est improbable d'un point de vue arithmétique, parce qu'en fait, c'est le plus large espace d'un point de vue objectif de non-censure. Mais en fait, le problème, il s'appelle Emmanuel Macron. Et celui qui ne veut pas que son bilan soit détricoté et qui s'arc-boute,
quel bilan ?
C'est Emmanuel Macron. Bah, son bilan, c'est la réforme des retraites, c'est la réforme de l'assurance chômage, c'est en fait toutes ces réformes qui font qu'il est aujourd'hui détesté. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il ne veut pas revenir dessus.
Ça, en cela, enfin, ce qui est dit là, en cela pose un vrai problème institutionnel. C'est la dissolution, la prérogative de dissolution, c'est une des dissolutions les plus discrétionnaires. Sauf quand il est dans le délai d'interdiction de dissoudre, après une dissolution, c'est très libre, c'est pas contraint. Et là, si on en croit, je crois que c'était dans Le Monde, un article de ce matin, finalement, Emmanuel Macron voulait dissoudre dès dimanche. Et il aurait été incité, bon, c'est des propos, hein, il aurait été incité à ne pas le faire pour précisément eh bien, essayer de négocier autre chose. Mais c'est intéressant parce que si demain, dans l'hypothèse où... Un gouvernement NFP arrive au pouvoir, vous allez être complètement sous la menace, même avec une sorte d'abstention, voire un vote positif d'une partie du socle commun, enfin des macronistes, vous allez être constamment sous la menace de quelqu'un, le fou du bus un peu, qui peut dissoudre à tout moment en réalité. Et pour quelqu'un qui en plus, bon, et qui est intéressé sur son bilan historique, mais qui risque rien.
Oui, mais le problème, c'est qu'il est dépendant quand même du reste.
Il est dépendant.
Pourquoi il n'a pas dissous ?
Complètement.
Sans doute aussi parce que tous les députés sont venus frapper à sa porte et en disant, enfin tous les députés macronistes, moi dans mes projections, je ne suis pas réélu. Enfin, tous ceux qui ont été réélus à 50, 51, 52 face au RN, ils savent aujourd'hui que c'est fini quand on regarde les enquêtes.
Mais ils pourraient très bien, je glose trop sur ce qu'ils pensent, mais ils pourraient très bien se dire, comme l'an dernier, je jette une grenade découpillée dans leurs jambes.
Ouais, mais sauf qu'en fait, lui, il pariait sur l'idée que la gauche serait trop faible.
Éclatée.
Et que du coup, en fait, il serait qualifié dans les seconds tours. Et il ne pariait pas aussi sur ce grand nombre de triangulaires qui a permis des recompositions. Donc,
est-ce que le PS a intérêt à une dissolution ?
En fait, nous, on a intérêt... À rien. Je suis même... enfin, la question qu'on pourrait se poser...
Moi, c'est impossible, ça. Non, mais la question... Vous avez forcément des intérêts.
Non, mais on pourrait avoir un intérêt à la dissolution. Si on regarde aujourd'hui les enquêtes qui viennent de sortir ce soir, là, il y en a une qui dit PS-PC face à LFI vert, c'est 17% ou 19% versus 11%. Et les macronistes sont dans les choux à 14% et les LR sont à 10%. En
tout cas. Et le RN est au pouvoir.
Et le RN est à 25%. Ben non, parce que...
Non, il est à 25 premier tour.
Enfin, ou 35, mais en fait, le RN se retrouve au second tour, et derrière, tu peux dire, bon, bah voilà, il y a un effet de Front Républicain, et ça se reproduit. Et en fait, le PS est qualifié dans plus de second tour que la fois d'avant, et donc tu peux te retrouver avec un effet de barrage républicain, avec une majorité PS-PC. Hein.
Mais c'est joué quand même avec l'hypothèse d'un barrage républicain.
Mais ça, pour moi, tu pourrais dire, bah, c'est l'intérêt objectif du Parti Socialiste.
Est-ce que vous pensez, est-ce que tu
penses... Mais moi, je ne le crois pas. En fait, je ne pense pas qu'une dissolution, par ailleurs, change fondamentalement la donne de manière générale. Si c'est pour aller repiquer 10 circos, 20 circos aux insoumis et 10 circos, 20 circos aux macronistes, Franchement, on va se retrouver à aller 130, 140 députés max, mais peut-être plutôt autour de 100. Derrière, à quoi ça, enfin, qu'est-ce que ça donne ? Et là, je parle à partir des enquêtes d'opinion de ce soir. Mais en fait, une campagne, c'est une dynamique. Et si les dynamiques s'inversent, que ça se neutralise et que ça fait 13-13, que les macronistes sont à 17, ben, en fait, on se retrouve à 50 députés comme en 2017 de gauche. Voilà. Et là, franchement, ben, on pourra tous se regarder les pieds en se disant qu'est-ce qu'on a fait. Donc, non, mais c'est pour ça que je dis que je ne dis pas dissolution, dissolution, dissolution. Je ne dis pas Macron destitution, Macron démission, parce qu'en fait, toutes ces hypothèses-là, je ne sais pas comment elles retombent. Ça peut bien retomber, mais objectivement, je pense que ça peut aussi très mal retomber.
Oui, mais
donc,
coup,
je préfère
c'est quoi
dire qu'on construit dans le paysage actuel les solutions pour tenir jusqu'en 2027, ce qui nous permet aussi, nous, la gauche, de nous organiser pour construire les conditions d'union.
Oui, mais si votre plan échoue, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à faire votre gouvernement, etc., c'est quoi le plan, en fait ?
What the plan ? Bah, si on a un gouvernement de droite, tu veux dire ou
C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à faire votre, la coalition de gauche avec tous les ministres de gauche, etc., ouais. Et donc du coup, il y a admettons, il y a, je ne sais pas, une cohabitation avec l'extrême droite ou qu'on a encore un gouvernement de droite. Du coup, qu'est-ce que vous comptez faire ? Vous comptez appeler à une dissolution ? Vous comptez
Chaque chose en son temps.
C'est facile, ça.
Bah ouais, mais en fait, moi, je vais pas aller dire... Imagine, je dis là, regarde Emmanuel Macron, si tu me regardes, demain, tu mets un gouvernement, tu fais ça, 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 dans ce cas-là, il se passe ça, ça, ça. Bah en fait, non. Nous, on veut la gauche au pouvoir.
Moi, je veux bien me poser une question, pardon, je suis un peu lourde, hein, mais sur le long terme. Parce que ce qui me frustre profondément, c'est que quand même, depuis 8 ans, on est face à un mur macroniste, on sait... et on sait qu'on est dans une phase d'ascension du fascisme, en France, et c'est le cas dans tous les pays occidentaux, sauf peut-être l'Espagne, qui reste un lieu à peu près sûr. Mais sinon, le mandat de notre peuple de gauche, il est clair, j'y reviens, je suis désolée, je suis un peu lourde, mais c'est l'union. Et donc moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on est censé faire sens de décisions qui ne vont pas, parfois, dans le sens de l'union. Donc les européennes désunies. Puis après, le NFP tous ensemble. Là, on ne sait pas, on va voir, ok. Puis la présidentielle, a priori divisée. Les législatives qui suivent, on verra. Les municipales...
Ouais, t'as enjambé les municipales.
Oui, voilà, mais parce que... les municipales...
Et on ne parle pas assez des sénatoriales.
Alors, oui, mais oui, du coup...
Il n'y a que le PS que ça intéresse.
Oui, qui dépendent. Oui, mais les sénatoriales dépendent déjà des municipales.
Ouais, exactement. J'y arrive.
Et là, sur les municipales, vraiment, je travaille dessus en ce moment. Donc j'ai besoin qu'on clarifie des trucs. Comment c'est possible qu'il y ait dans plusieurs villes que je peux citer des gens qui ont envie de faire l'union? Et alors, le problème, c'est aussi l'AFI. Et si c'était quelqu'un de l'AFI ce soir, j'aurais cette conversation avec eux. Mais bon, là, il s'avère que c'est toi. Quel est le plan?
Mais j'ai pas de problème à être le bouc émissaire que vote.
Mais non, mais c'est pas une question. C'est pareil, on peut pas se victimiser. On peut pas.
Ah non, mais je veux bien répondre des. Tout. Et expier les fautes qui... Voilà,
mais encore une fois, ce vocabulaire de expier, bouc émissaire, victime, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est que vous êtes en responsabilité et vous avez accès à des choix politiques forts.
Ça, c'est sûr.
Donc, quel est le plan pour les municipales ? Dans les villes où, après, qu'il y ait des villes qui sont de gauche et qu'on peut considérer que le premier tour est une primaire, chacun sa liste, ok, pourquoi pas. Dans les villes où l'union est la condition de l'accès au second tour, je peux en citer plein, hein, Angoulême, Narbonne, Caen...
Ah bah tiens, parlons de Caen.
Et bah voilà, parlons de Caen.
C'est ta ville dans le
Calvados. Et bah tu vois, à Caen.
Ah bah je vois bien parce que je suis en train de monter un groupe local là-bas pour pousser pour l'union de la gauche. Donc
à Caen,
je vois bien.
Moi, on me sollicitait beaucoup pour partir au municipal. J'ai dit non, on va faire l'union de la gauche. On a vu les Verts, vu le Parti communiste, vu l'après, vu Debout. On est tous ensemble. Aujourd'hui, les Insoumis ne sont pas encore trop partants. Place publique... On discute avec eux, Génération, pareil. Mais l'objectif, c'est de rassembler toute la gauche. C'est notre objectif. Donc, si tu vas expliquer aux uns et aux autres qu'ils veulent rejoindre notre démarche, on les accueille avec grand plaisir.
Et à Narbonne, par exemple. Tiens,
je
Narbonne,
connais pas bien la situation.
Je peux t'expliquer très vite. Si tu veux, tout le monde veut faire l'union, sauf le PS.
Alors, si j'ai bien compris, c'est un peu plus compliqué que ça, en fait.
Ah bon ?
Ah, tu connais. Donc.
Ah, donc tu connais. Voilà, c'est marrant parce qu'il y a 2 secondes, tu vois.
Mais il y a deux options. Et en fait, si j'ai bien compris, il y a un candidat place publique, en fait. C'est pas un candidat PS.
Ah, ouais. Justement, j'avais une question à ce sujet-là. C'est quoi votre position vis-à-vis de Raphaël Glucksmann ? Raphaël Glucksmann que vous avez soutenu pour les élections européennes, Raphaël Glucksmann qui dit tout le rejet de la France insoumise qui est le sien, comment se positionne le Parti socialiste et Raphaël Glucksmann, que l'on suppose être en voie de se présenter à l'élection présidentielle, peut-être avec le soutien du PS.
Ouais. Alors juste, je viens de penser à un truc.
D'accord.
Je réponds sur Glucksmann.
Je veux une réponse sur Glucksmann après.
Si on reste sur les municipales, tu disais le risque RN. Est-ce qu'à Marseille, il y a un risque RN ?
Non, mais moi, je ne parle pas de Marseille. J'ai dit mais
je parle de Marseille.
Il y a un risque.
Ben, il y a un risque RN à Marseille.
Il y a un risque RN. Et Ravier s'est retiré.
Objectivement, il y a un risque RN à Marseille.
RN à Marseille.
Pourquoi est-ce que Benoît Payan, qui fait les fournitures scolaires gratuites et qui rénove ses écoles, aujourd'hui, la gauche ne veut pas totalement le soutenir ? Moi, c'est une question que je pose.
Mais on défend la même chose.
Mais c'est un problème.
On est d'accord avec toi ?
Mais oui, on peut. Voilà. Mais
En fait, ça dépend des villes. C'est qu'il y a des villes dans lesquelles vous avez le beau rôle et des villes dans lesquelles c'est
moi, je suis plutôt pour l'union de la gauche et je suis plutôt aussi pour consolider les sortants. Voilà. Et notamment quand il y a un risque de bascule.
Si tu prends la législative partielle qu'il y a eu à Montauban, par exemple, il y avait un candidat dissident PS ?
Non, c'est l'inverse. C'est une circonscription PS sortante et c'est un candidat dissident Génération qui a fait 10% soutenu par la France Insoumise.
Pas que.
Si ?
Non.
Bah si, parce qu'en fait, la liste PS sortante, qui avait le logo NFP, moi je connais bien, j'étais collaborateur de Valérie Rabault, présidente du groupe, ancienne députée, qui a été battue la dernière fois par le RN, qui était candidate NFP. On repart contre elle, elle ne repart pas, mais sa successeur repart, et j'espère qu'elle va gagner, et qu'on va reprendre cette circo au RN, mais au premier tour, c'est pas le PS qui a créé la désunion de la gauche. Hein. Bon, je vais répondre à
Glucksmann. On fera pas l'union de la gauche ce soir.
Non, Glucksmann, tu voulais que je parle de Glucksmann.
Glucksmann, moi, ça m'intéresse que tu me dises quel est le positionnement aujourd'hui de la France Insoumise... du Parti Socialiste.
Et après, les gens, ils vont taper Arthur de la Porte et les filles. Quoi.
Ouais, il est insoumis, Arthur de la Porte, ouais. Non, mais c'est quoi votre position vis-à-vis de cet électron libre qui fait des commentaires dans la presse, qui est à la tête d'un petit parti qui s'appelle Place Publique, même s'il a eu des beaux succès aux élections européennes. Est-ce que c'est votre futur candidat ?
En tout cas, c'est pas le futur candidat du Parti Socialiste, puisque le Parti Socialiste, dans le processus de primaire, dans lequel j'espère Raphaël Glucksmann, s'il souhaite être président, s'inscrira. Parce que,
il a dit non. Il souhaiterait pas y aller.
Ben, moi, je lui demande incessamment d'y aller. Parce qu'en fait, moi, je n'accepterai pas que certains jouent la division et, au détriment du rassemblement. Voilà. Et si on cherche aujourd'hui à construire un espace avec Bagneux, c'est parce que l'hypothèse Glucksmann-Mélenchon, ce qui est testé dans la plupart des enquêtes d'opinion, n'existe pas. Parce qu'il y aura une candidature intermédiaire. Comment on fait pour que les Verts, le PC, etc., puissent ne pas avoir de candidature ? Ben, il faut un processus de départage. Et donc, moi, je demande à Raphaël Glucksmann, s'il a vraiment envie d'être président de la République, de venir là-dedans. Et s'il gagne la primaire, ben, je le soutiendrai.
Mais laisse-moi juste pointer ta contradiction, rapidement. Ah. Parce que Jean-Luc Mélenchon dit « pas de primaire, je serai candidat ». Glucksmann dit la même chose. Ouais. Tu acceptes de discuter avec l'un et pas avec l'autre.
Non, je te dis…
Non, tu dis la même chose pour Mélenchon, il faut qu'il vienne aussi.
Je te dis, il faut qu'il vienne.
Il veut pas se poser au date.
Comment ça ? Mais moi, j'ai.
Non, mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui est invité au format Bagneux.
Et il est invité, Glucksmann et Mélenchon, ils sont invités au format.
À la réunion de Tondelier, on est d'accord que les filles étaient présentes.
Mais moi,
oui. Ah oui, c'est
non,
là,
mais
oui.
La réunion. La
ça
réunion...
dépend des réunions.
Bah voilà, c'est ça. En
mais
fait,
parce
c'est
qu'il y a trop de réunions, parce que la réunion d'après, et les filles pas venues, mais c'est parce que nous, on a dit, les réunions qu'on fait aujourd'hui, c'est dans la perspective de ceux qui veulent gouverner demain. C'est la question que je disais, stratégique. Les insoumis disent, on veut la destitution et la démission du président de la République. Donc là, on n'est pas. Sur le même cadrage temporel. J'ai pas entendu Raphaël Glucksmann dire on veut la destitution ou démission d'Emmanuel Macron.
Je te rappelle qu'un de ses députés fermait des lits au ministère de la Santé il y a encore quelques mois.
Lorraine.
Moi, j'ai une question. En fait, là, depuis tout à l'heure, on parle de personne, de on n'aime pas un tel, de les gens nous disent pas Jean-Luc Mélenchon, pas Raphaël Glucksmann, etc. Pour l'hypothèse des municipales, comme pour celle de la présidentielle, est-ce que la solution, ce ne serait pas de faire comme le NFP a voulu faire en 2024, c'est-à-dire nommer quelqu'un de la société civile, et que dans la primaire, il n'y ait pas à chaque fois tel ego contre tel ego avec tout le passif qu'on leur connaît, mais qu'on ait des nouvelles personnes qui puissent arriver et en fait, être au-dessus de ces...
Genre Lucie Castet ?
Pas forcément Lucie Castet, mais qui puissent être au-dessus de ces... Enfin, petites embrouilles partisanes. Est-ce qu'on pourrait pas faire ça, en fait ?
Parce
que, je finis juste ce que je dis. Juste parce que, par exemple, moi, je suis élue dans la commune de Fos, je suis apartisane. Mais on est un conseil municipal majoritaire, de gauche, avec quasiment tous les partis, etc. Mais le fait est que, y a du mal à s'entendre. Mais en fait, on voit que quand on a une mère qui est au-dessus de ses considérations partisanes, en fait, c'est déjà un peu plus simple de se parler et de réguler et d'avoir un dialogue. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas faire ça à d'autres échelles, en fait ? Parce que j'ai l'impression que les gens demandent plus de reconnaissance, plus de démocratie participative, d'être mieux représentés, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, 70% des gens ne se sentent pas représentés par les partis politiques. Pourquoi on n'écoute pas les gens quand on... Ce désir populaire, en fait, d'être mieux représentés, y compris par des gens qui viennent, par exemple, plus de classes populaires.
Alors, juste pour te répondre sur la question initiale, qui est celle de pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas une figure issue de la société civile à l'Élysée ? Sur le principe, pourquoi pas ? Mais la question, c'est comment est-ce que cette figure permet d'éviter la multiplication des candidatures à gauche ? Donc du coup, en fait, aujourd'hui, on sait très bien que les partis, ce sont des organisations qui aspirent à diriger le pays. Donc comment on arrive à réguler les partis, c'est en les inscrivant dans une primaire. Et donc du coup, c'est pas une question d'ego. C'est aussi une question de projet, c'est une question d'horizon de valeur et c'est une question de différence. Moi, j'ai pas de problème de dire.
Vous avez réussi à le faire en 2024 pour nommer quelqu'un, même si ça a pris un certain temps.
On était dans un cadre qui était un peu différent parce que l'enjeu, c'était pas que cette personne-là remporte l'élection de lendemain. Donc ça, c'est la deuxième condition. C'est comment on arrive dans une primaire à réguler en fait un espace où il y a plusieurs candidatures, pas simplement parce que c'est une question d'éco, mais c'est une question de projet différent, qui sont pas forcément incompatibles, mais il y a une question d'arbitrage à faire. Et puis c'est une question de qui peut gagner derrière. Et on peut supposer que la personne qui remporte une primaire avec, mettons, 2 ou 3 millions d'électeurs, eh ben, elle a potentiellement un socle derrière elle minimal qui lui permet d'espérer une qualification au second tour et de créer une dynamique. C'était quand même l'idée initiale de la primaire. Et moi, demain, si je veux être qualifié au second tour, il me faut autour de 7 à 8 millions de personnes qui votent. Enfin, je ne suis pas candidat. Si je veux que mon candidat soit ma candidate soit qualifiée au second tour, il faut 8 millions de personnes qui votent pour elle.
Oui, mais rien ne vous assure que les personnes qui ont voté à la primaire ne soient pas ensuite déçues du résultat et ne votent pas tout simplement au premier tour. Effet, de la même manière qu'aujourd'hui, s'il y a une solution, il y a plein de gens en fait, qui ne veulent pas retourner aux urnes, qui sont allés pour la première fois en 2024 et qui ne veulent plus y retourner parce que pour eux, en fait, il n'y a plus cet espoir en fait, de pouvoir gouverner, justement, de pouvoir gagner l'élection parce qu'il y a aujourd'hui, en tout cas, pas cette union large à gauche.
Alors, oui, je vais juste totalement décentrer le débat. Une fois, je me suis présenté à une élection et je l'ai perdue.
Laquelle ?
Les élections départementales sur le canton de Ouistreham. Okay. Et j'ai perdu à 500 voix. Bon, est-ce que pour autant j'ai arrêté de me présenter à des élections ? Non. Et en fait, si je fais de la politique, c'est pas parce que j'ai perdu une fois que j'arrête d'en faire. C'est parce que je crois dans les valeurs que je défends et parce que demain, même si demain je gagne pas, après-demain, je voudrais gouverner. Je voudrais gouverner pas simplement pour gouverner, oui, pour changer la vie des gens.
Il y a quand même une forme d'urgence, en fait, parce que, en fait, sans l'union large de la gauche, faut remettre l'église au milieu du village, justement. C'est que on va avoir Bardella ou Retailleau, mais en fait, qui est la même chose, c'est l'extrême droite en réalité.
Et oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je reviens sur notre histoire de primaire.
D'ailleurs, à ce propos,
porte la primaire pour ça.
À propos d'extrême droite, est-ce que tu penses qu'il y aura un front républicain aussi fort à la prochaine élection législative ?
J'en sais rien. On a toujours tendance à dire non avant, et puis au pied du mur, il y a des gens qui se réveillent.
Mais il y a une réflexion collective sur ça, parce qu'on on a une crise, tu es politiste, c'est une conjoncture fluide, tu vois, il y a des éléments qui se reconfigurent assez rapidement et parfois de façon inattendue. Là, dans cette semaine, on a eu quand même quelques sorties. Alors, Retailleau, ce n'est pas quelque chose d'étonnant, mais Madame Primas, après, elle est revenue en arrière, mais de dire que finalement, on peut gouverner. C'est un peu comme la dame qui était sur BFM et qui disait « Finalement, on n'a pas essayé le RN,
oui,
allons-y. »
Oui, allons-y. Mais cette dame sur BFM,
mais y a une
c'est
réflexion
des dames
sur ça
partout parce dans que les campagnes.
Il y a quand même un discours, j'interprète peut-être mal, il y a un discours en fait qui est dirigé sur la présidentielle. Alors, le Parti socialiste s'est totalement converti à la problématique du présidentialisme.
Moins que d'autres.
Moins que d'autres. Non, clairement, la gauche, de manière générale, est un parti... Et moins personnalisé sur les partis de gouvernement, j'en ai conscience. Mais toujours est-il que l'objectif est là-dessus. Vous n'insistez pas sur essayer de reconfigurer autrement le jeu politique, la compétition politique. Le risque que vous prenez, c'est d'une part la primaire, où d'ailleurs les collègues qui ont un peu travaillé dessus ont tiré des conclusions assez critiques de la performance de la primaire hors François Hollande. Et le risque, c'est de créer une déception, soit au moment de la primaire, soit de créer un phénomène de personnalisation où là, vous êtes perdant, manifestement, dans les sondages.
Alors, oui et non. C'est-à-dire que, oui, on peut être critique vis-à-vis de la primaire. Enfin, on connaît les limites, on l'évoquait tout à l'heure, qu'il y ait des électeurs qui soient déçus. Mais c'est un peu comme la démocratie. Quel est le meilleur processus de régulation qui existe? Si tu prends, par exemple, ceux qui ont beaucoup travaillé sur les primaires en sciences politiques, comme Rémi Lefebvre. Mm-hmm. Aujourd'hui, Rémi Lefebvre, c'est l'un de ceux qui pensent justement les conditions d'existence d'une primaire dans le processus Bagneux.
Oui, c'est vrai.
Donc, les mêmes critiques des primaires sont ceux qui disent « Bah oui, mais il n'y a pas de meilleur processus de désignation. Sinon, c'est la primaire des sondages. » Et donc, on se retrouve, je vous le donne en mille, Mélenchon, Glucksmann, qui sont au même niveau, et l'un ne se retirant jamais pour l'autre. Mmh. Et du coup, se neutralisant l'un et l'autre. Donc moi, je crois que justement, l'idée de cette primaire, c'est de faire émerger le plus large espace commun. Et c'est ce que nous portons avec Olivier Faure, puisque nous avons gagné le congrès du Parti Socialiste. Et non, mais je le dis, si on avait perdu ce congrès, déjà, je ne serais pas forcément là ce soir.
On aura un autre porte-parole.
Et je crois qu'on dirait autre chose. On dirait la force va à la force, ce qui est à peu près ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Mais moi, je ne crois pas à ça, parce que la force va à la force, mais c'est aussi ce qui nous neutralise à partir du moment où on n'est plus dans un processus de bipolarisation de la vie politique. C'est que les gauches sont plurielles et qu'à un moment, eh bien, oui, il y en a peut-être un qui sera au-dessus de l'autre, mais à la fin, on aura tellement fracturé qu'on sera incapable de gagner le deuxième tour face au Rassemblement national. Et donc, pour moi, voilà, cet enjeu de construction du commun, c'est ce qui est devant nous. Et malheureusement, ça ne peut pas se faire en une semaine. C'est pour ça que je ne suis pas forcément pour aussi une destitution ou une élection présidentielle anticipée.
J'ai une dernière question à te poser. Toutes ces pérégrinations cette semaine de la vie politique fait gamberger beaucoup de monde sur les institutions. Beaucoup pensent la Ve République à bout de souffle. Quelle est la position du PS vis-à-vis de la réforme des institutions? Est-ce que vous souhaitez une 6e République, une Assemblée constituante? Vous avez réfléchi déjà à ça? Si vous êtes au gouvernement dans quelques jours,
oui, alors,
qu'est-ce que vous faites?
Si on est au gouvernement, pour moi, d'un point de vue institutionnel, la première des urgences, c'est une loi anti-concentration dans les médias. Okay. Parce qu'en fait, si on ne veut pas que la démocratie se délite encore plus, il faut arrêter le pouvoir de l'oligarchie médiatique. Voilà. Après, si on va un peu plus loin, à moyen terme, moi, je pense qu'il faut une proportionnelle à l'allemande, par exemple, okay, avec un système, en gros, de compensation, mais toujours des élections par circonscription.
Donc,
mais
vous surtout, êtes pour la 6e République, en vrai.
En fait, peu importe la manière dont on l'appelle. Ce que j'appelle de mes voeux, moi, c'est une République plus parlementaire, et donc moins présidentialiste. On peut imaginer plein de modèles, la suppression du Premier ministre, par exemple. On peut supprimer le 49-3, supprimer plein de choses, pas de problème. Plus de démocratie directe. Moi, je suis très partisan de tout ce qui va être... Moi, j'ai créé une assemblée citoyenne de circonscription, par exemple, avec des citoyens tirés au sort pour partie, volontaires pour l'autre moitié. Donc, en fait, il faut imaginer la manière dont on recoue les liens entre démocratie délibérative, représentative et organisation des citoyens et comment on arrive à leur donner du pouvoir. Mais ça, en fait, peu importe qu'on l'appelle 6e, 5e bis, 5e terre, enfin, j'en sais rien. Mais ça peut se faire petit à petit. J'ai beaucoup travaillé sur le RIP parce que j'ai dit que je travaillais avec Valérie Rabault tout à l'heure.
C'est le référendum d'initiative partagée.
On a lancé le premier référendum d'initiative partagée sur les aéroports de Paris. Bon, on en a vu les limites aussi. C'était super intéressant sur le principe. Hein. On aurait pu faire un RIP sur la loi Duplon, par exemple. Vous voyez, mais sauf que, comme il faut collecter
ces
10% d'électorat, derrière, en fait, il suffit qu'il y ait un débat au Parlement et le truc tombe à l'eau, il n'y a pas de référendum. Mmh. Donc, en fait, c'est un truc qui a été fait pour ne jamais exister. Donc, moi, je ne suis pas hostile à ce référendum d'initiative partagé. Voilà. Plus le RIP, d'ailleurs, que le RIC, même si le RIC peut aussi s'envisager sur un certain nombre de sujets. Enfin, je ne suis pas hostile à tout ça. Mais en fait, ce n'est pas ça qui résoudra la crise démocratique. Et il y a des pays avec des constitutions bien plus démocratiques, entre guillemets, où il y a beaucoup plus de participation citoyenne, qui ne sont pas saisis parce qu'en fait, ceux qui font un peu de sciences politiques observent que c'est toujours les classes supérieures qui vont utiliser les outils de la démocratie participative. Et finalement, quand on l'a vu mettre en place dans des villes, c'est pareil. Ça va être finalement un renforcement du pouvoir de ceux qui ont le temps de s'engager dans la vie de la cité. Et donc, il y a toujours des limites à tous ces outils-là. Et c'est pour ça aussi que je crois dans la démocratie représentative, avec des élus qui ont un mandat pour pouvoir réfléchir et avoir le temps d'agir.
Oui, mais parce faut-il que encore qu'ils représentent réellement la société voilà. Et là, bien on sûr. En est loin.
Et donc, mais ils représentent quand même les idées du corps social. Même s'ils ne sont pas représentatifs, ils représentent quand même les idées de leurs électeurs. Et aujourd'hui, en fait, avec notre Assemblée nationale, globalement, on a une Assemblée nationale qui est à peu près représentative et je vois que les écrans s'éteignent.
Merci. Ouais, il n'y a plus rien qui va ce soir. Merci beaucoup, Arthur Delaporte, d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Merci. Je te laisse quitter le plateau. Merci à toi. On va conclure cette émission. On va conclure cette émission rapidement. Ça va les copains ? Après cette folle semaine, j'avais tellement hâte de faire un Backseat pour vous voir et pour discuter de tout ça.
Vraiment.
Et on n'est que jeudi.
mais attends, on connaît même pas le nom du Premier ministre.
Oui. Je dirais qu'on est dimanche.
Qui aura peut-être déjà disparu avant la fin de la semaine, c'est
bah, grave.
Puis, non, c'est fou, c'est incroyable.
Est-ce que vous avez vu cette trend où maintenant les gens comptent en gouvernement le cornu ?
Oui, j'ai vu.
Genre faire sécher, tu sais, faire cuire ça ou faire reposer ta pâte pendant le gouvernement le cornu.
C'est très très bon, c'est très très bon.
Vraiment vu sur Twitter.
Non, c'était une super émission, très dense. On a dit beaucoup de choses, il y avait beaucoup de choses à traiter. Il s'est passé beaucoup de choses en très peu de temps. Très bonne interview aussi, notre invité de la semaine, pour le coup, au cœur de l'actualité. C'est peu de le dire avec tout ce qui se trame en ce moment et le rôle du Parti Socialiste dans tout ça. Je reste très curieux d'un gouvernement de gauche sous la surveillance étroite des macronistes. On verra. On verra si ça arrive, j'y crois pas. J'y crois pas, on verra bien. Où est-ce qu'on vous retrouve, les copains ? Où est-ce qu'on peut vous suivre ?
Loin de la dépression, j'espère, vraiment.
On croise les doigts.
Sur Instagram, notamment, Twitter. En ce moment, je lâche beaucoup de mes colères, mais aussi les colères des miens. Et je pense que d'ailleurs, c'est ce que tout le monde devrait un petit peu avoir à l'esprit avant de commencer à parler politique et stratégie. Mon podcast autour de moi, disponible sur YouTube et toutes les plateformes de podcast, podcast où je demande à mes invités de me parler de leur entourage.
Trop bien, ça s'appelle Autour de moi, à retrouver sur toutes les plateformes. Les autres, où est-ce qu'on va Loumir.
Sur Insta, Loumir Lapré, a priori on n'est pas nombreux à s'appeler Loumir. sur Substack, ma newsletter Plouk Power. Et
j'adore le nom, c'est trop fort.
Et en librairie, avec mon premier livre, Ces gens-là, aux éditions Payot, si jamais vous voulez parler de la campagne et des ruralités.
Trop bien. Lorraine ?
Sur quasiment tous les réseaux sociaux, Peace and Love, bah, comme c'est écrit, bon, ceux qui n'ont pas l'image, c'est comme Peace and Love, mais L-O-L-A-U. Et sur mon nouveau média, du coup, Dans l'arène, en fait, on va faire pas mal de vidéos, notamment sur les municipales, parce qu'on en parle beaucoup, mais on va essayer d'expliquer concrètement à quoi ça sert. Quels sont les rôles, les pouvoirs d'un maire ou d'une maire, par exemple. En fait, on va vraiment revenir aux bases de la base avec des petites vidéos de 2-3 minutes. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, ça arrive incessamment sous peu.
Ok, trop bien. Thibaut ?
Moi, vous pouvez me retrouver à l'Université Paris-Nanterre, qui est la meilleure université qu'on ait pu inventer sur cette planète.
Je confirme.
Et en particulier, parce que des fois, c'est un peu difficile pour les cours du lundi, mais en particulier, Amphibé, bâtiment veille, 16h40, droit constitutionnel, et on se régale, enfin j'espère, parce que c'est pas le programme le plus facile, souveraineté, État, mais on parle un peu de ce qui se passe quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en droit constitutionnel, c'est la matière qui revient à la mode.
Grave.
Faites du droit constitutionnel, mangez-en, c'est bon pour la santé.
Voilà.
Moi, je vous retrouve, je vous annonce une émission mercredi prochain avec la Fondation pour la Recherche Médicale à partir de 14h, une émission sur la santé des femmes. On va notamment parler de l'endométriose avec des personnes concernées et surtout des chercheurs et chercheuses qui bossent sur ces sujets et qui nous raconteront ce qu'ils et elles font et comment ils et elles bossent. Voilà, à partir de 14h mercredi prochain, jeudi 16. Backseat, évidemment, on revient pour débriefer le nouveau Premier ministre, qui que ce soit. Merci beaucoup à toutes et à tous, c'est la fin de cette émission. Salut tout le monde, ciao, bye.